On continue la petite étude qu'on a commencée sur d'être rafraîchis parce que le Seigneur va agir dans nos cœurs, dans nos vies. Si on se repent puis on se tourne vers lui, il va agir, il l'a promis, comme ça nous dit dans Actes 3, 19 et 20, ça nous dit de se repentir, de se convertir pour que nos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous, c'est comme s'il n'y a pas de pardon des péchés, il ne peut pas avoir de rafraîchissement. Il faut passer en premier par recevoir le pardon dans la repentance, de se convertir. Là, nos péchés sont effacés. Puis, parce que je veux que tout le monde puisse saisir en voyant les versets. Il veut qu'on se repente, qu'on se convertisse pour que nos péchés soient effacés, pour que les rafraîchissements viennent, afin que les rafraîchissements viennent. Puis c'est une bénédiction pour une personne de recevoir les rafraîchissements du Seigneur. Mais pour rentrer vraiment, une fois que tu es chrétien, comme je dis, j'ai déjà mentionné, tu vis des moments de sécheresse dans ta vie chrétienne, tu vis des moments durs, puis tu sens pas le rafraîchissement. Bien, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose qui empêche qu'on le reçoive. Même quand ça fait 20 ans ou 30 ans que tu es chrétien, tu peux encore faire des choses qui vont mettre un arrêt à la bénédiction de Dieu, à la pluie de Dieu dans ta vie. Puis il est important qu'on réalise que faut regarder qu'est-ce qu'on fait. Faut faire le point devant le Seigneur. De regarder, y a-tu quelque chose qui marche pas dans ma vie chrétienne? Y a-tu quelque chose qui est pas biblique? Que Dieu essaye de me montrer, puis que je vois peut-être un peu, ou peut-être je veux pas le voir, mais il faut quand même ouvrir nos yeux et le regarder. Ce que le Seigneur nous montre, là, c'est parce qu'il veut que ça change. C'est pas juste parce qu'il veut nous le montrer. Il veut que ça change. Puis c'est quand qu'on s'approche de lui, puis qu'on croit, comme la deuxième partie, le deuxième verset clé de notre foi dans cette série de messages-là, dans Luc 4, 18, c'est que Dieu a donné à Jésus le pouvoir de délivrer, de proclamer aux captifs la délivrance. Dieu a donné ce pouvoir-là à Jésus. Ça veut dire, si on est captif dans une situation, le Seigneur est capable de proclamer une parole puis nous rendre libres. Peu importe quel péché qu'on est esclave, qu'on est pogné, ou quelle dépendance, ou quelle attitude, des fois c'est dans nos pensées, des fois c'est dans notre cœur qui est pas bien disposé envers les autres, puis des fois c'est nos actions qu'on fait qui sont pas de Dieu, puis Dieu veut nous le montrer, puis nous rendre libres. Il veut faire de chacun de nous des gens libres, pas libres d'obéir, libres du péché, afin qu'on marche dans une pleine obéissance. Amen. Croyez-vous que le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer? On a tous vécu des délivrances. Tout le monde qui sont à Jésus n'ont vécu. On a reçu des exaucements. Notre vie a commencé à changer. Mais comme je vous disais, si on veut pleinement tous les temps de rafraîchissement du Seigneur, mais il faut s'efforcer de demander au Seigneur de venir changer les choses qui restent. Aujourd'hui, on va voir un autre sujet. Puis là, des fois, vous allez me dire, où est-ce qu'il prend ça, tous ces sujets-là? Dans la Bible, c'est la meilleure place. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, « Ah, j'entends pas le Seigneur parler. » Tu lis-tu ta Bible? Il a déjà parlé. Tout ce qu'il a dit qu'on devait savoir est déjà écrit dans sa parole. Il a déjà parlé. On se demande où est-ce qu'il parle le Seigneur. Premièrement, c'est dans sa parole. Tu as beau entendre n'importe quoi d'autre. Première place qu'il veut que tu sois à l'écoute, là, c'est de lire ce qu'il a déjà déclaré, puis de commencer à ajuster ta vie face à cela. Ensuite, après les autres petits détails qui sont pas écrits, parce qu'il n'y a pas tout écrit, il va te le dire ensuite. Mais commence par là, la parole de Dieu. Puis quand que tu prépares des séries comme cela, moi, je vous le dis, là, j'ai pas de mérite. Quand je me mets là pour faire cela, il me donne les idées, ils viennent toutes une part derrière l'autre. Je fais juste écrire qu'est-ce qu'il me dit. Fait que, ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise. Approfondir la Bible, ces sujets-là. Aujourd'hui, on va voir le sujet d'être rafraîchi par la délivrance des passions mauvaises. Ou des passions tout court. Parce qu'en tant qu'être humain, on est passionné dans plein de choses. On l'a vu tout à l'heure dans un chant qui disait d'être passionné pour Jésus. On n'est pas toujours passionné pour Jésus. Des fois, notre passion est dans d'autres choses. C'est ça qu'on va regarder. La Bible parle-tu de cela? Oui, il y a plein de versets qui parlent de cela. Puis que Dieu veut nous délivrer de toute passion qui nous empêche d'être passionné pour Jésus. Parce qu'un chrétien, pour lui, devrait adorer Dieu, là. Puis quand je dis Dieu, c'est Jésus puis Saint-Esprit. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. En premier de tout, c'est ça. Le focus doit être sur Jésus tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais rien pour nous passionner autour, mais il y a des passions qu'il faut vraiment tasser, parce que des passions mauvaises. Puis il y en a d'autres, des passions qui sont permises, mais il ne veut pas qu'on soit esclave de nos passions dans les bonnes passions. Il y a des dangers dans ce monde. On va faire un survol d'un très grave problème du 21e siècle qui menace les chrétiens. C'est des choses qu'on a aujourd'hui autour de nous qui n'étaient pas là, 2000 ans. Plein de choses qui n'étaient pas là, puis qu'aujourd'hui, c'est rendu normal, parce que ça fait partie de la vie du 21e siècle. Mais c'est dangereux, parce que même s'il y a des choses qui sont pas défendues, il y a des choses qui sont dangereuses quand t'en es passionné, puis que ton focus est dans ces choses-là. Puis le Seigneur veut nous délivrer aussi de ces choses-là. La Bible nous parle des exemples tirés de l'histoire du peuple juif. Hein? Vous savez que tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, là, c'était pour nous servir d'instruction. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 5 et 6. Puis bien que les Juifs, y avaient les promesses de Dieu, mais ils ont tombé dans le péché, puis ils ont péri dans le désert. Il y avait les promesses, ils s'en allaient dans tes promises, puis ils ont péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. C'est un piège qu'ils ont eu, ce qu'ils ont vécu, puis que là, ils ont tombé dedans, puis là, ils n'ont pas obtenu les promesses. Puis là, dans le Nouveau Testament, ça nous dit, dans ce passage-là, ça nous dit que ça, là, en regardant à partir du verset 5, « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Des fois, on dit, oh, dans ce temps-là, ça marchait avec la loi, puis il y avait des jugements, parce qu'il y avait un rapport avec la loi. Oui, mais là, Paul nous dit que ça a été vu, ça a été vécu, puis ça a été vu parce que ça nous a été donné par écrit, pour nous servir d'exemple. Afin qu'on soit pas comme eux. Fait que dans l'Ancienne Alliance, il y a des exemples à ne pas faire. Si tu lis les autres textes tout de suite après, je les ai pas mis, mais ces textes-là parlent d'idolâtrie, d'impudicité, ils ont tenté le Seigneur, ils ont murmuré, ils ont chialé, puis tout ça, ça a fait qu'on a tiré des jugements de Dieu. Mais toutes ces choses-là peuvent encore être faites aujourd'hui. Que les chrétiens sont poignés dans des idolâtries, où les chrétiens sont poignés dans l'impudicité. Ça, c'est le sexe en dehors du mariage, là, bien entendu. Puis ça pourrait être l'adultère, ça pourrait être d'autres choses, comme que c'est écrit dans un texte dans le Nouveau Testament. Ils ont les yeux pleins d'adultère, mais c'est compris dans le sens de l'impudicité. Mais des convoitises, des passions, des désirs de notre corps, qui emmène le gars à vouloir se mettre à genoux devant une statue ou de vouloir faire du sexe en dehors de son mariage, toutes les formes de désobéissance ou de chialer sur ce que Dieu permet dans notre vie, c'est vrai, parce que dans ce temps-là, il faisait... Il a dit, on avait tout en Égypte, on avait de la bouffe à volonté, tu sais, il y a des melons, il y avait toutes sortes d'affaires, des fruits et légumes, puis là, on est rendu dans le désert, puis on mange de la manne. C'est ça qui est arrivé. Oh non, pas encore de la manne. Puis là, ils criaient, puis ils chiolaient, puis là, ils ont demandé de la viande, puis ils n'ont eu... jusqu'au point que ça leur sorte par les oreilles, parce qu'ils en ont eu un voyage de caille. Ça, le Dieu est capable de pourvoir pour les choses, mais il veut pas qu'on chiale. Puis ça peut être aussi pour nous aujourd'hui, quand on écoute nos passions, là, puis qu'on arrête, on voudrait avoir ça, on voudrait avoir ça, puis on les a pas, puis on se plaint. C'est ça qui se passait dans ce temps-là aussi. Ça, c'est des exemples pour pas qu'on soit comme cela aujourd'hui. Ils ont pas plu à Dieu, puis sont tous morts dans le désert. Nous, c'est pas ça que Dieu veut comme plan pour nous. Il veut qu'on puisse hériter. Il dit afin qu'on ait les temps de rafraîchissement. Ça veut dire qu'il veut nous bénir, mais il nous demande de nous repentir des fois, d'abandonner des mauvaises pratiques qui pourraient être des passions qu'on recherche, puis que ça nous amène à vivre d'une façon qui déplaît à Dieu. Le peuple de Dieu déplut à Dieu en se laissant aller à leur passion naturelle, parce que c'est naturel d'un être humain de se mettre à genoux devant une statue. Je suis sûr qu'avant d'être chrétien, vous l'avez déjà fait. Il y en a qui sont nés dans une famille chrétienne, n'ont peut-être pas vécu ça, là, une famille chrétienne, mais la majorité, on était catholiques, puis on s'est tous mis à genoux devant un crucifix ou devant une photo. C'est normal, c'est à ça. Mais c'est pas de Dieu, mais on l'a fait pareil. On est entraîné dans des passions. Des fois, c'est même pas parce qu'on le comprenait, on le faisait faire comme les autres. Mais c'est un péché grave devant Dieu, l'idolâtrie. C'est un des 10 commandements de Dieu. Ou les activités sexuelles en dehors du mariage. La majorité, on a toutes connu ça. On est tous des pécheurs. Puis là, tu peux être chrétien puis être encore tenté dans ces affaires-là. Avoir reçu les promesses de Dieu puis être encore tenté dans cela. Mais un chrétien, faut pas qu'il se livre dans ces affaires-là. Il y a un combat, là. On continue juste l'autre verset qui dit après, qui dit les 4 points de tentation, là, dans 1 Corinthiens 10, mais au verset 11. Il répète l'apôtre Paul, c'est pas des fêtes, il dit 2 fois. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous, ça. C'est pour nous, ces exemples-là, de ce qu'on a vécu, pour pas qu'on fasse la même chose qu'eux autres. Puis là, il rajoute, « Ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. » Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve des tentations, parce qu'on va tous en avoir des tentations dans des passions qui sont de la chair. On va tous en avoir des tentations, mais on peut être victorieux en chrétien. Il faut pas embarquer dans ce qui est devant nos yeux. « Oh, mais je l'ai à TV devant mes yeux. » Oui, mais embarque pas dedans. Change de poste ou étant à TV. Faut pas rester là-dedans. C'est des péchés qui attristent le Saint-Esprit puis qui peuvent attirer un jugement de Dieu sur nous. C'est pas des farces. Si on veut vraiment aller dans la vie éternelle, on est mieux de faire attention. Ces gens-là qui n'ont pas plu à Dieu, ils ont péri dans le désert. Puis nous, ça nous sert d'exemple afin qu'on soit pas comme eux puis qu'on prenne garde de tomber. Il y a un combat pour les chrétiens. Pour le chrétien, nous avons un appel de marcher dans la sainteté, loin des mauvais désirs puis des passions charnelles. Colossiens 3:5, ça nous dit à nous, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, les impuretés, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. » Voyez, il y a quelque chose là. On est appelé en tant que chrétien à travailler, à faire mourir cela, que ça arrête, que ça s'éteigne, que ça disparaisse dans notre vie, ces passions-là, puis ces mauvais désirs-là. Ça vient de la chair. Puis aujourd'hui, là, on a une abondance de sujets de passion. Ça a juste ouvrir le catalogue de Canadian Tower, t'en vois plein, là. T'as même pas besoin de rien, tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin, là? Tu sais même pas ce que tu veux. Tu fouilles, là, des convoitises, il y en a plein, c'est tous des sujets qu'on pourrait convoiter, des affaires qu'on pourra désirer posséder, puis sont des passions, c'est des mauvais désirs, t'en as pas de besoin. T'as pas besoin, mais tout est là à faire. Il faut apprendre à faire mourir cela, puis de concentrer notre focus sur Jésus, puis ce qui est nécessaire pour notre vie, puis notre marche avec Jésus. Fais mourir les membres de passion, de mauvais désir. Quand on regarde le mot passion, des fois on dit, avant je pensais que c'était tout haut sur le mauvais côté le mot passion. Non, tu peux être passionné de bonnes choses. Le chant tantôt, il disait d'être passionné pour Jésus. Passion, c'est d'aimer quelque chose avec passion. T'as une joie, t'as une excitation d'aimer cette chose-là. Ça peut être une bonne affaire comme une mauvaise affaire aimer. Aimer passionnément, c'est aimer même démesurément. T'aimes trop. Il y a même les bonnes choses, tu peux aimer trop. Quand il dit d'aimer nos enfants, c'est biblique, puis d'en prendre soin. Mais la Bible, elle dit aussi, dans un autre verset, de ne pas les aimer plus que Dieu. Ça veut dire que faut que tu fasses attention. Si tu aimes plus tes enfants que Dieu, tu vas dire, moi, je veux faire plaisir à mes enfants. Puis là, tu dis, moi, Dieu, j'ai pas le temps pour toi, je m'occupe de mes enfants. Tu es rendu dans une passion mauvaise. Il y a plein de sujets comme ça qu'on pourrait toucher. On a regardé quelques-uns là avec qu'est-ce qu'on a vu là. Mais c'était juste pour dire, il y a les bonnes puis les mauvaises. Puis les bonnes, c'est d'aimer Dieu, sa parole, la chérir dans notre cœur, l'en faire le sujet de notre méditation, afin qu'on ne perde pas le focus sur qu'est-ce que Dieu nous appelle. Parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on pourra se mettre à aimer, puis que là, on sera partout. Dans le mot passion, comme je vous disais, dans le grec, ça peut être sur le bon côté comme sur le mauvais sens pour les passions. Dans le Nouveau Testament, un mauvais sens, c'est les passions dépravées que ça veut dire. Vile passion. Il y a une autre place dans un verset, ça dit les œuvres mortes, les passions perverses, les mauvais désirs, la poursuite des richesses puis de l'argent. Là, on parle de choses que c'est écrit textuellement. Puis ces choses-là, c'est des choses qu'on pourrait aimer beaucoup trop. Puis même, il y en a des choses qu'on pourrait aimer puis qu'on n'a pas le droit du tout d'aimer ces affaires-là, comme je parlais d'adultère ou d'impudicité ou d'idolâtrie. Ça faut même, c'est tolérance zéro par Dieu. Dieu ne veut pas. Ça fait partie des 10 commandements. Ça veut dire aussi les plaisirs intenses qui rendent les chrétiens dépendants. Des choses que les gens aiment beaucoup puis gaspillent tout le temps là-dedans. Tu peux être passionné d'écouter la TV puis que la TV prenne trop de place dans ta vie. Même si tu écouterais des bons films chrétiens, si tu vas pas à l'église, t'es pas à ta place. Si tu bien beau qu'il y ait un bon programme, ça doit pas passer avant Dieu. Si t'aimes ça, là, au point que t'aimes plus ça que Dieu, t'es dans le péché. T'es dans le péché si t'aimes quelque chose de plus que Dieu. Parce que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Puis si t'as des responsabilités à faire, mais tu dois faire les choses de Dieu en premier, puis là, t'ajustes ta vie, ton film, tu l'enregistreras, puis tu l'écouteras une autre journée. Et c'est pour dire qu'on peut faire passer bien des affaires avant Dieu dans notre vie. Puis on est passionné de choses qui nous intéressent, puis plus que Dieu. Ça devient des péchés. C'est pas mal d'écouter un bon film, là. Mais quand il peut y avoir un amour exagéré pour ces choses-là, puis que tu négliges les choses que Dieu nous appelle à vivre et à faire ou à dire. Des choses que les gens aiment beaucoup puis gaspillent tout le temps là-dedans. Comme le jeu, jouer à des jeux, c'est pas mal de jouer une game. C'est quand ta game est du matin au soir, là, il y a un problème, ou de semaine en semaine, puis t'es à la semaine longue d'en jouer une game. C'est plus une game, c'est 1000 games. Mais ça devient une passion, puis c'est un péché. Il y a la télévision aussi, c'est la même affaire. Les réseaux sociaux, c'est la même affaire. Tu peux être passionné d'être sur YouTube, là, ou sur puis passer tes grandes journées là-dessus, sur Facebook. Par regarder ce que tout le monde écrit, tout le monde fait, puis c'est comme s'il y a une dépendance qui se crée là-dedans. C'est un amour exagéré. Les réseaux sociaux, c'est aussi dangereux que d'autres choses. Ben, il y a plein de mauvaises affaires en plus. Mais le point est la passion. C'est ça qu'on regarde. Ça peut être aussi être passionné du sport, passer à mettre une admiration exagérée envers les joueurs, puis tu vas apprendre par cœur tous les noms des 30 joueurs dans l'équipe de hockey, tout le pedigree, le score, tout ça, puis tu sais même pas le nom des 12 apôtres. Tu sais, c'est pour dire, et où notre passion? Mais ils jouent pas. Moi, mais c'est vrai, faut y penser, frères et sœurs. Les choses du monde prennent trop de place comparées aux choses de Dieu. Oui. Les activités, le divertissement, c'est pas mal d'aller faire un pique-nique. Mais si tu passes tous les jours, tous les repas en pique-nique, puis t'es pas où ce que t'es supposé être, il y a une passion, là, qui est trop. C'est pas à ta place. Puis ça mine la vie des chrétiens, ça. Parce que les chrétiens, quand ils sont pas à leur place, ils avancent pas dans le Seigneur. Puis c'est sûr que le Seigneur veut nous le dire, parce que c'est écrit noir sur blanc, toutes ces affaires-là, dans la parole de Dieu. Il veut nous le dire, puis prendre garde, comme qu'on a vu tantôt, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Dieu nous regarde, puis gère nos tentations, toutes les tentations de notre vie, il gère, dans tous les domaines, afin qu'on soit victorieux. C'est ça le plan de Dieu. Parce que les passions, c'est autant une tentation. Ce que ton corps désire, parce que c'est ton corps ou tes pensées, ton cœur qui désire ça, mais parce que tu désires, t'es passionné, t'as un amour exagéré, un amour extrême, certaines affaires, puis que tu vas négliger les autres. Mais Dieu, il voit tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Puis il veut nous délivrer de cela. Il veut nous rendre victorieux. Il nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Toutes nos tentations sont au moyen humain. Vous n'avez pas eu de tentation surnaturelle insurmontable. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur vous pour pas qu'il soit au-dessus de vos forces. » Fait que tout ce que vous vivez comme tentation ou comme passion ou comme chose à surmonter, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Dieu veille sur nous, puis il ne permet pas que les tentations soient au-delà de nos capacités. Ça dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire, peu importe ce qu'on est en train de vivre, vous avez la force. Est en Jésus. Les armes et la puissance de Dieu sont à notre disposition pour être capable de prendre autorité, d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous délivre, ou tu sais, tu chasses un esprit, tu peux bloquer les tout parce que tu as l'autorité et tu es sous le sang de Jésus. Tu peux invoquer le sang de Jésus pour te purifier. Toutes les armes de Dieu sont à notre disposition. Puis il dit, il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire que tous les chrétiens, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre présentement, croyez que vous avez devant vous le moyen d'en sortir. Vous n'êtes pas obligé de rester où ce que vous êtes. Je parle à ceux qui sont poignés dans quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez marcher vainqueur au-dessus des tentations. Comme ça dit, de prendre toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les chrétiens peuvent, s'ils le veulent, tout surmonter. Amen. Le Seigneur force personne, par contre. Je me suis jamais fait tordre un bras par le Seigneur. Ça fait 40 ans que je le suis. Il est jamais venu, puis, ah, OK. Il fait juste, des fois, me laisser aller. Puis là, je suis pogné. Puis là, je force, puis j'en viens pas à bout. Parce qu'il nous force pas. Mais quand on est pogné, il n'y a rien qui marche comme c'est supposé. On va le voir tantôt dans certains exemples. Mais il n'y a rien qui marche comme c'est supposé, puis tu n'es pas heureux. Tu n'es pas dans la joie du Seigneur, tu n'es pas dans la paix du Seigneur, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça va pas bien. Parce que quand tu es chrétien, moi j'ai un plaisir à être rempli du Saint-Esprit, tu te sens bien. Puis vous l'avez tout expérimenté, Puis, ça pourrait être de même à tous les jours. S'il y a quelque chose qui, mettons, un désert, Dieu permet des déserts, mais il est en train, comme ça dit, il nous emmène dans un désert qu'on prenne le temps d'écouter. Là, ça va mal, là, il faut chercher qu'est-ce qui va pas bien, là. C'est quoi qui est pas correct dans ma vie? Puis là, il demandait pardon, puis il demandait son secours. Puis il va le faire parce qu'il a le pouvoir. J'ai juste à dire un mot, Jésus, que t'es délivré. Tard! Il faut juste dire, sois libre, paf, tu viens, tu n'as plus de lien. Là, tu te mets à sauter de joie, t'es content. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, puis je sais que vous l'avez expérimenté. Mais soyez comme dans un désir d'être un oiseau en liberté et non un oiseau en cage. On n'est pas obligé de rester en cage. En Jésus, on peut marcher dans la victoire et être au-dessus de tout. Si on s'accroche pour y demander l'aide. Amen. Vu que le Seigneur ne force pas personne, il dit ceux qui ne veulent pas changer, il va les laisser dans leur passion. On voit ça dans Romains 1:28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion informe. Parce que les gens ne veulent pas être délivrés, ils ne veulent pas aller à Dieu pour recevoir son secours. Ils les laissent aller, qu'un. Continuez à patauger dans votre débauche ou dans vos péchés ou dans vos liens. Puis là, les gens sont malheureux jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'il faut qu'ils demandent pardon au Seigneur. Puis là, ils reçoivent une délivrance. Mais ça dit, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Quand tu veux pas que Dieu fasse de quoi dans ta vie, hein, il te livre, il te laisse aller, go. Là, un chrétien ne peut pas être heureux dans cette situation-là. Puis là, ça dégénère quand tu es laissé aller, parce qu'un péché rouvre la porte à un autre péché. C'est comme si tout va, ça s'en va en remplirant quand Dieu te laisse aller. C'est juste quand tu demeures en Dieu que tout s'en va dans la délivrance, puis la guérison, puis la restauration, puis le rafraîchissement, les bénédictions de Dieu quand tu restes en Dieu. Amen. Dieu nous appelle à avoir le contrôle sur notre corps, frères et sœurs. Oui, j'ai été mis dans mon corps. Je n'ai pas demandé qu'à le comprendre. Chacun de vous ne l'avait pas demandé. Il nous a mis dans un corps. Puis là, il nous dit à nous, contrôle-les. Gère ton corps. Conduis ton corps. Laisse-toi pas mener par ton corps. Parce que si tu t'écoutes ton corps puis tu te laisses aller à ses volontés, tu vas marcher dans le chemin qui déplaît à Dieu. C'est officiel. Il dit la chair ne peut plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Tu peux pas avancer dans ta vie chrétienne si tu écoutes ton corps. Tu vas avancer quand tu vas apprendre à contrôler ton corps. Tes passions, faut que tu les contrôles. Tu pourras pas dire, « Oh, je n'étais pas capable. » Pas vrai. Tout est là pour qu'on puisse la supporter, puis qu'on puisse avoir marché dans la pleine délivrance, avoir toutes les bénédictions de Dieu. Tout est là pour tout le monde. C'est les mêmes choses pour tout le monde. Il n'y a pas un qui est plus méritant que l'autre. La seule manière que tu vas, pas mériter, mais que tu vas profiter des bénédictions de Dieu, c'est si tu veux les recevoir, puis tu cours après. Tu vas les avoir. Mais si tu t'en fous, puis tu le délaisses, puis l'autre chose que Dieu veut pas, tu l'aimes, puis tu t'écoutes ton corps, tu t'en vas là-dedans, c'est sûr, tu vas vivre des temps durs. Tu vas imiter les gens du peuple juif qui étaient là dans l'ancienne alliance, puis qui n'ont pas arrivé à la fin, parce qu'ils sont morts, ils ont péri dans le désert. Dieu nous appelle à avoir le contrôle sur notre corps, puis il faut apprendre à le maîtriser. Dans 1 Thessaloniciens 4:4-5, ça nous dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son corps. Ça veut dire que, spirituellement parlant, Dieu nous a donné à nous, à l'intérieur, la capacité de contrôler cela. Les élans, puis les passions, puis les désirs. Des fois, ça prend un petit peu de temps parce qu'il veut voir vraiment si on le veut. Puis là, on le demande, puis à un moment donné, paf, il nous délivre. Mais il y a un combat à livrer, puis il faut que tu te renforcisses dans le désir de vouloir marcher dans les voies de Dieu. C'est ça que ça dit là-dedans. Il dit, sache posséder ton corps. Il dit au verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Voyez-vous, si on parle des passions, là, comme le font tous les païens qui connaissent pas Dieu. Le monde qui connaît pas Dieu court après leurs passions. Mais nous, en tant que chrétiens, il faut se maîtriser, il faut se contrôler, puis on ne doit pas se livrer à des convoitises passionnées. Des choses qui sont présentées devant nous, on aura la possibilité d'aller coucher avec la voisine, mais on va dire non. On va résister. Que ce soit dans n'importe quel domaine des passions, il faut apprendre à se contrôler. Que ce soit tous les domaines, j'ai dit aussi tantôt, les jeux, la télévision, les réseaux sociaux, l'amour des sports ou trop d'activités. Mais tout ça, il faut apprendre à se contrôler pour focusser sur « je suis passionné pour Jésus ». Tu le fais passer en premier. C'est Jésus qui est ta passion. Puis ça, si tu entretiens ça, le reste va s'éteindre. Mais si tu entretiens les autres passions, c'est ta passion pour Jésus qui va s'éteindre. Tu peux pas courir les deux mondes en même temps. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons des choses à fuir puis d'autres choses à rechercher. Si tu veux être béni par le Seigneur, tu dois rechercher le focus sur Jésus, puis d'aspirer à voir ces temps de rafraîchissement. Tu veux être béni par le Seigneur, mais il dit, commence par te repentir, puis te convertir, pour que tes péchés soient pardonnés. Puis lorsque Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, Paul lui a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, parce que Timothée, c'est un jeune homme. Puis Paul l'avait emmené avec lui dans son ministère, puis il avait à cœur d'avancer dans l'œuvre de Dieu, mais à un moment donné, il s'est refroidi. Puis là, Paul a envoyé les deux lettres à Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, il a expliqué des choses, puis dans les deux lettres, tu le vois, que le Timothée, il était ralenti spirituellement. Paul, il l'excitait à réanimer les dons qu'il avait reçus par l'imposition des mains, puis il a dit, dans ce passage-là, à fuir les passions de la jeunesse. Parce que quand tu es jeune, tu désires plein d'affaires que tu désires plus quand tu es plus vieux. L'esprit de compétition. Tu sais, il y a toutes sortes de il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Parce qu'il doit mettre l'accent sur poids et haltère, puis essayer de, tu sais, les passions de jeunesse. Il y en a, c'est pas mal, mais faut pas que ça devienne le centre de ta vie. Il faut pas que tu abandonnes les appels de Dieu en plus, parce que Dieu, il a un appel pour chacun de nous. Puis il veut qu'on fasse des efforts à rechercher ce qui fait grandir nos dons, nos talents, surtout dans l'appel qu'on a reçu de Dieu. On a toutes des capacités à mettre au service du Seigneur, puis il veut qu'on focus à rechercher ce qui va nous faire grandir, qui va nous équiper, qui va nous faire de nous des gens plus solides dans le Seigneur. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voyez-vous, il y a plein d'éléments spirituels qu'on peut rechercher qui sont pas tout à fait dans la même direction que nos passions. Les passions, comme je vous disais tantôt, c'est un mal qui existe, qui est très fort aujourd'hui, parce que c'est présenté à radio, à télévision, sur Internet, partout où tu trouves n'importe quel moyen de communication, puis ils te montrent des sujets un beau char, un beau yacht, un chalet, des voyages ici et là, puis les plages, puis tout le ce qui est superficiel, qui est pas nécessaire, puis qui fait pas vraiment partie de notre appel, à moins que tu sois appelé à aller d'un pays comme en Afrique pour aller évangéliser, puis tu prends l'avion, il n'y a rien de mal là, faire un voyage en Afrique pour aller évangéliser. Puis même aller à un voyage dans le sud, une fois, ça peut arriver, mais si tu poses à toi fin de semaine là, il y a un problème. Des passions, là, faut gérer ça, frères et sœurs, parce que ça peut nous détourner de notre appel. Recherchons ce qui nous va nous faire grandir spirituellement. Puis ça, l'intérêt pour ces choses-là va faire mourir les intérêts de l'autre bord. C'est vrai qu'avant d'être chrétien, on était sans force pour obéir à Dieu, parce que on connaissait pas, on ne savait pas quoi faire. On ne l'avait pas appris, on n'a jamais étudié la Bible. Avant d'être chrétien, on était ignorant des choses de Dieu. Fait que ce qui se présente devant nous, on en profitait. Mais on a déplu à Dieu grandement par tous les péchés qu'on a faits. Ça le dit dans Romains 7:5, il dit, car lorsqu'on nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi s'agissaient dans nos membres de sorte qu'on portait du fruit pour la mort. C'est grave, on se rend pas compte que les passions de péché, ça produit du fruit pour la mort et non pour Dieu. Ben, une fois que tu es chrétien, il y a des passions de péché qui produisent encore des fruits pour la mort. Parce que quand on vit dans le péché, on ne produit pas de fruits pour Dieu. Puis on doit travailler à faire mourir cela. Parce que on ne sera pas béni, on ne recevra pas ses promesses, puis ses rafraîchissements, puis être béni dans tous les aspects de notre vie si on poursuit des choses qui sont défendues par Dieu. Avant, on n'avait pas de force pour lutter contre ça, mais maintenant, on a le Saint-Esprit en nous. On est entré dans une nouvelle vie que toutes les lois spirituelles, là, la loi de l'Esprit vit. Tout ce que Dieu a voulu nous donner, là, on l'a déjà, on est là-dedans. Des promesses, puis des armes et la puissance de Dieu à notre disposition pour être victorieux, puis marcher dans le fruit pour Dieu. On a tout, là. Dans Romains 8:2, ça dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Autant qu'on était pogné dans la mort avant parce qu'on savait rien, puis on n'était pas sous une puissance qui aurait pu nous aider, on était sous la puissance des ténèbres qui nous rendait plus aveugles, puis plus liés, enchaînés. Mais maintenant, en Jésus, il y a un nouveau régime, c'est un régime de délivrance, de guérison, de restauration, de rafraîchissement, de bénédiction, qu'on peut vivre et expérimenter tous les jours, de victoire dans nos épreuves, puis plein d'espérance dans les promesses de Dieu. C'est tout dans le nouveau monde que nous sommes présentement, en autant qu'on y croit et qu'on le veut. Puis c'est là qu'il faut se prendre en main, frères et sœurs, dans cela. Quand les chrétiens recherchent leur passion, ils ne se rendent pas compte des combats qu'ils ajoutent dans leur vie. Quand on se laisse aller dans des passions, là, on ne se rend pas compte comment on est en train d'aggraver notre cas. On est en train de nous rendre volontairement, sans s'en rendre compte, notre vie plus dure, plus difficile. Ça sera plus facile de tout abandonner au Seigneur que de poursuivre des chemins de plaisir charnel. Dans Jean 4:1, ça le dit. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Les gens convoitent, les gens veulent, ils jalousent l'autre. Ils sont passionnés pour les choses superficielles, puis là, ça crée de la brouille dans l'Église, puis là, la guerre pogne dans l'Église. C'est ça que ça dit dans ce contexte-là. C'est la chicane est pognée des luttes, des querelles parmi les chrétiens à cause qu'ils sont animés de passion. Ça augmente la difficulté de vivre dans ce monde quand tu es passionné des choses charnelles. Tu es pas heureux, puis ça rend pas les autres heureux non plus. Tout le monde en est infecté là, dans cela. Puis on doit apprendre à marcher dans les bénédictions de Dieu, puis là, tout le monde va être dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Puis même les prières, nos prières sont... Les prières d'un chrétien charnel, ils ne montent pas à Dieu. Ça le dit aussi dans Jacques, 2 versets plus loin. Il dit, vous demandez, vous recevez pas... parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu es toujours focusé sur ton nombril, sur les choses pour ta propre vie, « Oh Seigneur, je veux un gros bateau. Oh Seigneur. » Puis là, on focus. C'est pas mal d'avoir une chaloupe pour aller à la pêche, mais c'est quand que notre but est toujours que sur les choses personnelles. C'est d'être animé de chercher ses passions. Dieu veut qu'on pense aux besoins d'autrui dans nos prières aussi. Il veut qu'on pense aux besoins. C'est beau, les choses passionnantes que la vue peut offrir. Si tu peux l'avoir, tant mieux, rends gloire à Dieu, mais si tu peux pas, là, arrête de courir après ça. Il nous le dit dans ce passage-là. On ne reçoit pas parce qu'on demande mal, dans le but de satisfaire nos passions. Quand les passions embarquent, là, mais là, on focus là-dessus. C'est comme si notre désir, c'est avoir l'affaire qu'on demande, puis c'est même pas un besoin réellement. Souvent, c'est juste un loisir ou une activité ou un plaisir, un accessoire qui n'est pas une obligation. Si, comme je vous dis, j'ai rien contre qu'on ait une chaloupe, mais demandons au Seigneur si ça fait partie d'un extra, puis si tu y demandes, demande-y que sa volonté soit faite, ça va être encore mieux. La Bible nous avertit de prendre garde aussi aux gens qu'on peut rencontrer dans les églises. C'est pas tout le monde qui marche rempli du Saint-Esprit. Puis dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5 et 6, ça dit qu'il y a des gens qu'on va rencontrer qui ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a que parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ces gens-là sont chargés de péché et agités par des passions de toute espèce. Ça veut dire que c'est des gens qui marchent selon la chair. C'est le but quand ils sont à l'église, c'est pas de venir glorifier Dieu, puis de venir, même s'ils le feraient, qu'ils chanteraient un chant ou ils feraient une prière. Si leur conduite est focussée que sur leur nombril, puis d'enseigner leur fausseté, puis de répandre, puis d'avoir un contrôle, puis toute la, il y a comme un, ces gens-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, Paul il en a vu dans son temps des gens, même dans les propres églises que lui-même Paul a mis en place, l'église de Corinthe, ceux qui étaient rendus comme en charge de cette église-là, tu le vois dans 2 Corinthiens, c'est au chapitre 11, je pense, qui parle des gens, des super apôtres, qui les traitent de super apôtres, puis qu'ils les traitent d'ouvriers trompeurs, puis ils les traitent des ministres de Satan déguisés en ministres de Christ, parce que ces gens-là contrôlent les autres, voulaient pas que Paul y aille. Puis il n'y a pas rien que dans cette épître-là qu'on voit cette idée-là, c'est aussi dans un autre épître. Puis dans celle-là, ces gens-là ne voulaient pas que Paul y aille, puis ces gens-là géraient l'Église durement en frappant les gens. Puis c'était une Église charnelle, menée par des gens charnels. Tu lis toutes les choses, il y a plein de désordres qui se passaient dans cette Église-là, qui en était le résultat de cela, bien entendu. Il peut en avoir, si vous rencontrez des gens qui marchent charnellement avec leur passion, puis ils cherchent à contrôler puis à détruire, là, éloignez-vous de ces gens-là, c'est un mauvais exemple. Recherchez l'exemple de gens qui se consacrent au Seigneur, puis qui aiment prier, puis qui aiment louer Dieu, puis qui aiment se sanctifier davantage, puis focus sur œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce monde-là qu'il faut focusser. Parce que ces gens-là qui sont des mauvais exemples, t'es voué souvent qu'ils deviennent pasteurs de super églises de milliers de personnes, puis ça prêche la prospérité pour tout le monde, mais il n'y a qu'eux autres qui s'enrichissent dans l'église. Ils prêchent la prospérité, tout le monde font des gros dons. Lui, il est archimillionnaire, puis il se promène avec 2-3 jets, puis les autres, ils sont encore en train de prier pour essayer d'avoir de quoi manger, puis payer leur carte de crédit, parce qu'ils ont fait un don sur leur carte. Ça, j'ai caricaturé, là, mais c'est vrai, ça existe. Un chrétien authentique a décidé de combattre ses mauvaises habitudes de sa chair. Dans Galates 5, 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Même si on ne sera pas encore rendu là, que vous n'avez pas encore compris, là, c'est le temps, là, on comprend facilement, là. Faut qu'on soit capable de retenir quelque chose de ce qui est enseigné, frères et sœurs. On doit travailler à faire mourir les œuvres de notre corps. Un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui marche dans une consécration, dans un désir de plaire à Dieu, dans ses choix, dans sa manière de vivre, dans ce qu'il va dire, ce qu'il va penser, dans ce qu'il va agir, ça va paraître que c'est un gars qui est authentique. Amen. La victoire pour un chrétien est de laisser mourir les désirs non saints par le Saint-Esprit. Parce que dans Romains 8, 13, ça nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On veut-tu être des gens vivants? Comme tu vois dans l'Ancien Testament, il y a un gars qui arriva auprès du roi. Au roi, il dit, t'es vivant, puis ton Dieu est vivant, puis tu sais, il dit, vis éternellement. Il bénissait le roi en lui disant que ton âme vive éternellement, puis t'es une personne vivante, ton Dieu est vivant. Tu vois ces expressions-là, mais ça a le même rapport. Si tu veux être vivant spirituellement en tant chrétien authentique, tu vas l'être parce que le Saint-Esprit va être vivant en toi. Là, t'es un être vivant. Mais si tu marches charnellement, t'es en train de mourir spirituellement. Le sang de Jésus, c'est la solution pour être purifié afin de servir le Seigneur avec liberté. Ça fait partie des armes et la puissance de Dieu à notre disposition. Dans Hébreux 9, 14, ça nous dit, combien plus le sang de Christ, là ça nous parle de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, mais le sang de Christ, là, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Moi, je crois que quand tu viens à Jésus, il t'a purifié ta conscience, afin que tu serves. Le problème, c'est que quand on avance dans le Seigneur, on retourne encore dans les œuvres mortes qui nous rend encore souillés, puis on a encore besoin d'être purifiés dans notre conscience. C'est quoi qui se passe dans notre conscience? C'est c'est comme si on s'attache volontairement dans nos pensées à certaines choses que Dieu veut pas. Puis avant que tu puisses l'enlever, l'affaire de mes mains, il faut que tu l'enlèves d'ici. Parce que si tu l'enlèves juste de là, moi, si ici, je le vends encore, qu'est-ce que je vais faire? M'en aller le rechercher. Tu as besoin d'être purifié ici. D'arrêter de vouloir ces affaires-là. Ça, c'est le sang de Jésus qui peut nous purifier. Du côté délivré, libéré. Tu demandes au Seigneur de te pardonner et de te purifier. Il dit, si nous, on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, nous rendre purs. Puis le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il nous rend purs, pas juste en nous pardonnant, mais aussi en nous donnant la victoire, en enlevant cela. C'est une puissance qui peut changer tes pensées. Tu invoques le Seigneur, puis tu invoques son sang pour te pardonner et te libérer de ce qui te tient captif, puis le Seigneur va te prononcer une parole, ping, puis il va te rendre libre. Puis c'est de même que ça se procure, une liberté de tes œuvres mortes. Ça, c'est ça que ça dit. Il va purifier votre conscience des œuvres mortes afin que vous ayez des œuvres, afin que vous serviez le Dieu vivant. Tu vas avoir des œuvres vivantes pour le Dieu vivant. Ça, c'est le but, frères et sœurs. Fait que on s'aperçoit qu'on a quatre choses qui ne marchent pas dans notre vie, mais il faut l'avouer à Dieu. Si on le cache, il ne se produira rien. On va rester dans notre état. Il va peut-être continuer à nous le montrer, mais tant qu'on cache et qu'on n'avoue pas, il ne se passera pas de délivrance. C'est quand tu vas l'avouer que on va en être délivré, puis qu'on va pouvoir avancer à servir le Dieu vivant. Amen. Je vais finir avec deux versets pour nous faire comme le mettre un résumé de tout ce qu'on vient de dire. On va voir là-dedans comment est-ce que l'apôtre Paul conçoit le principe de délivrance. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17 et 18, ça dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » On le sait là, que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, puis c'est Dieu en même temps. « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là, c'est même plus que ça. L'autre verset, il dit, « Nous tous qui, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Là, on voit le côté spirituel de la délivrance. Quand tu y crois que Jésus, là, le Saint-Esprit, là, c'est la délivrance. Si tu vas au Seigneur et tu cherches à être dans le Saint-Esprit, mais tu vas comprendre les vérités de la Bible, c'est comme si tu les vois, puis là, tu vas être transformé pour arriver à être comme Jésus. On voit le côté comme facile de la délivrance. En réalité, ça vient du Seigneur, ça vient du Saint-Esprit qui te libère. Comme si tu n'aurais pas fait de gros efforts, tu es juste là en train de regarder le Seigneur, focusser sur le Seigneur. Jésus, c'est ta passion. Si tu focuses le Seigneur, tu le regardes comme dans un miroir, tu contemples sa gloire, puis là, tu es transformé dans la même image. Vous comprenez l'idée? Plus qu'on s'approche du Seigneur, plus qu'on va être délivré. Mais dans la délivrance, il n'y a pas juste cet aspect-là. Il y a les deux autres versets qui viennent suite après ça. Là, l'apôtre Paul, ça c'est au verset 1 et 2 de 2 Corinthiens. Je pense que je n'ai pas mis le verset 2. En tout cas, le verset 1 dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais c'est l'autre verset qui dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons toute conscience d'homme devant Dieu. Là, il y a l'aspect prendre position dans ce que tu vis spirituellement. Parce que regarder le miroir, puis contempler le Seigneur, c'est un aspect pour la délivrance. Le deuxième qui est aussi important, c'est de prendre position. Puis là, l'apôtre Paul nous parle de trois choses qu'eux autres faisaient pour être authentiques. Pas juste regardant le miroir, mais il dit qu'il rejette les choses honteuses qui se font en secret. Fait que ça soit toutes les passions, les convoitises, les mauvais désirs, les péchés de toutes sortes, tout ce qui n'est pas de Dieu, il rejette ça. Il prend autorité pour chasser ça. Faut-tu vraiment que tu le dises que tu n'en veux pas? Tu confesses que tu n'en veux pas. Faut-tu le dises? Je veux plus être comme ça. Je rejette mettons, t'es un orgueilleux, mettons, t'es passionné pour quelque chose. Tu confesses ton point, tu l'avoues, tu le dis, tu rejettes. Faut que tu fasses cette action-là qui va aller avec regarder et contempler le Seigneur. Si tu veux être vraiment délivré, c'est pas juste le voir, c'est aussi ta prise de position personnelle face à cette chose-là. De rejeter les choses honteuses. De pas avoir une conduite astucieuse. Une conduite astucieuse, c'est un peu comme analyser ta conduite, faire exprès d'être comme ça par rapport à t'as des idées en arrière de la tête. Tu veux te montrer bien fin, bien beau, bien spirituel, puis quand tu es ailleurs, tu penses autrement. Avoir des astuces, là, puis de faire attention par rapport à d'autres choses, là, puis t'es pas inauthentique, t'es pas un vrai. Puis tu ne seras pas béni du Seigneur parce que si on est hypocrite, à quelque part, Dieu ne nous exaucera pas. Faut que tu sois vrai. Tu veux plus, puis tu chercheras pas à essayer de te montrer meilleur, puis d'essayer d'être d'une manière pour essayer de gagner de la popularité ou pour d'autres buts que de vouloir être vrai. Si tu es un pécheur sur un point, tu ne te vantes pas, tu es mieux de rien dire que de penser que tu... puis essayer de montrer aux autres que t'es d'autres choses. Fait que d'être vrai, là, c'est de rejeter, de pas être... faut être authentique, pas essayer d'être astucieux, puis de modifier. Puis en plus, il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, c'est la vérité. Si c'est écrit blanc, ben c'est blanc. Si c'est écrit noir, c'est noir. On change pas les affaires pour un « oh, mais ça, c'était de même dans ce temps-là, puis c'est pas vraiment, puis là, on veut pas mettre en pratique. » Puis on tord la Bible pour essayer de suivre la popularité, la mode, les pensées populaires d'aujourd'hui. Il y a des choses aujourd'hui qui se disent, puis qui se font, puis qui sont pas bibliques. Faut être ce qui est écrit là. On veut être ce qui est écrit là. C'est ça qui est la puissance de Dieu. Ah, oh, mais dans ce temps-là, ça c'est une pratique, là, dans ce temps-là par rapport à d'autres choses. Non, c'est pas écrit ça dans la Bible, ça c'est les raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas par des faux raisonnements. Il y a des raisonnements pour empêcher d'obéir. Si c'est écrit de le faire, on le fait. Puis si tu marches de même, tu es un authentique. Puis tu vas les vivre, les guérisons et les délivrances, puis la bénédiction de Dieu. Tu vas regarder le Seigneur dans un miroir, puis il va dire, ça c'est un vrai, puis le Seigneur va te bénir. Il va te bénir parce que tu es un vrai. Amen. Puis c'est ça qu'on est appelé, frères et sœurs, à être des gens authentiques. Puis il n'y a pas juste le Seigneur qui le voit en passant. Tout le monde autour, on voit si les gens sont vrais ou faux. Tu sais, parce que des faux frères, Paul l'a dit qu'il y en avait des faux frères. Puis il y a des faux prophètes, puis il y a des faux docteurs, puis il y a des faux enseignants. C'est écrit tous ces points-là. Puis on n'est pas là pour représenter le faux, on est là pour représenter des vrais. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, on veut vivre selon ta parole, marcher dans la sainteté, la pureté, loin des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, je te demande de nous le montrer afin qu'on apprenne à pas être passionné pour les choses du monde, mais à être passionné pour Jésus. On veut focusser sur toi, Seigneur. On veut te louer, t'adorer, te glorifier, te suivre, te servir, marcher avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, rends-nous authentiques. Continue à nous changer, à nous transformer. Je te demande de nous pardonner toutes les fois qu'on a marché tout croche, puis qu'on t'a déplu, puis qu'on était un mauvais témoignage. Purifie nos vies par le sang de Jésus et rends-nous libres de tout cela, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen.